VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. En Libye, Tripoli, paralysé ce mercredi pour le troisième jour consécutif par les combats entre les forces appuyant le GNA, le gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale, et leurs adversaires. Les éléments pro-GNA progressent dans la capitale et ils ont chassé aujourd'hui de leur quartier général à Tripoli les groupes armés rivaux fidèles à Khalifa Gouel, l'ancien chef d'un gouvernement non reconnu, écarté du pouvoir en avril 2016 après la formation du GNA. La prise du palais des hôtes, le complexe faisant office de quartier général à ces groupes rivaux, fait suite à de violents combats à l'arme lourde qui avaient commencé hier et ont continué ce mercredi. Khalifa Gouel, qui avait multiplié les gestes de défiance à l'encontre du GNA, est appuyé par des milices de sa ville natale de Misrata, dans l'ouest du pays, ainsi que par d'autres groupes à Tripoli, basés notamment dans le sud de la capitale. L'ancien ministre tchadien des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat, a pris ses nouvelles fonctions de président de la Commission de l'Union africaine hier, promettant de réformer l'institution et de s'attaquer aux nombreuses crises du continent africain. Le Tchadien, âgé de 56 ans, a été élu en janvier après avoir été depuis 2008 le chef de la diplomatie du Tchad, pays allié de l'Occident dans la lutte anti-djihadiste, et un fidèle du président tchadien Idriss Déby Itno. L'analyse de Michael Didama, directeur de publication du journal tchadien Le Temps, sur l'accession de Moussa Faki Mahamat à la tête de la Commission de l'Union africaine.
Il ne faut pas perdre de vue que Moussa Faki est le candidat du Tchad et surtout du président Idriss Déby, qui a toujours dénoncé au plus fort moment de la lutte de l'OTAN contre Gaddafi, il a toujours dénoncé cette inaction de l'Union africaine et surtout cette ingérence des Occidentaux sur les questions africaines. Et je pense que Moussa Faki est sur cette ligne et il doit effectivement chercher à donner ses lettres de noblesse à l'Union africaine, qui souvent a été mis de côté et qui fait quelquefois de faire valoir. Et il est temps que l'Union africaine occupe la place qu'il lui faut, surtout quand il s'agit de l'Afrique. Il est important que l'Union africaine soit en tête et que le point de l'Union africaine prime. Et quand je dis prime, cela ne doit pas aussi être le point de ceux qui oppriment leur peuple. Ça, ce sont des questions assez importantes. On sait qu'en Afrique, il y a des pays qui ont fait des avancées importantes en matière de démocratie, d'autres qui n'ont pas tout bougé, d'autres aussi qui ont des chefs d'État qui ne se soucient pas souvent du bien-être de leur peuple. Donc tout cela doit être pris en compte par Moussa Faki parce que les Africains ont changé, le monde a changé et l'Afrique, les Africains aussi doivent changer et les Africains doivent prendre en main le destin de leur continent.
Michael Didama, directeur de publication du journal tchadien Le Temps. Politique en RDC, l'Église catholique et la CENI, la commission chargée d'organiser les élections, inquiète au sujet d'une escalade des violences dans le centre du pays, secouée par une rébellion qui risque de retarder le processus électoral. Au Kasaï, l'une des provinces touchées par les troubles, 4 antennes de la Commission électorale nationale indépendante ont été incendiées, a affirmé le président de la CENI, Corneille Nanga. En Gambie, c'est en rang dispersé que la coalition au pouvoir ira aux législatives du mois prochain. Un revers pour le nouveau président Adama Barrow au moment où il met en œuvre des réformes, Michel Joseph.
Après sa victoire à l'arraché face à l'ancien président Yahya Jammeh, le président Barrow avait promis que sa coalition continuerait de gouverner comme une famille. Toutefois, des documents publiés cette semaine par la commission électorale gambienne montrent que 239 candidats représentant 9 partis brigueront des sièges à l'Assemblée nationale le mois prochain. 6 de ces partis avaient uni leurs forces pour soutenir le président Barrow et mettre fin à 22 ans de pouvoir de Yahya Jammeh. Selon une source, le désaccord est au sein de la coalition, née des questions de représentation et de répartition des sièges. Sous Jammeh, l'Assemblée nationale n'était qu'une simple caisse de résonance des décisions de l'exécutif. Le nouveau président a promis de collaborer étroitement avec les législateurs, notamment sur les réformes constitutionnelles. Toutefois, l'éclatement de sa coalition pourrait redonner du tonus à l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction. L'ancien parti au pouvoir, qui demeure une force politique en Gambie, malgré le départ en exil de son fondateur, Jammeh.
Au Nigeria, 4 adolescentes ont tué 2 personnes et blessé 16 autres lorsque leurs ceintures d'explosifs ont été activées à Maïdougouri, chef-lieu de l'état de Borno, dans le nord-est du pays. Les jeunes filles ont frappé à la porte d'un logement avant de déclencher les explosifs. Ces attaques contre des habitations individuelles s'inscrivent dans une nouvelle stratégie développée par le groupe islamiste Boko Haram dans sa lutte contre le pouvoir central nigérian.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Kenya, un accord enfin entre le gouvernement et les représentants des médecins du secteur public qui sont parvenus à un arrangement mardi pour mettre un terme au conflit social qui a paralysé le système de santé public du pays pendant 100 jours. Jacques Aristide.
Une grève inhabituellement longue et particulièrement acrimonieuse. Les autorités kényanes ont plusieurs fois menacé de licenciement les médecins et obtenu que leurs représentants syndicaux soient incarcérés pendant 2 jours le mois dernier. Elles avaient même menacé de recruter des médecins indiens pour remplacer les grévistes. L'accord conclu hier met fin au mouvement, mais c'est un accord de compromis, car de nouveaux pourparlers doivent avoir lieu pour parachever les négociations salariales. Les médecins kényans réclament une importante revalorisation de leur salaire et de meilleures conditions de travail, y compris de meilleurs équipements dans les hôpitaux publics. La hausse salariale, rappelle-t-il, figurait dans un accord paraffé en 2013, mais jamais appliqué. À l'approche des élections prévues en août, cette grève était devenue un dossier épineux et potentiellement dommageable pour le président Uhuru Kenyatta, qui briguera un second mandat.
Actualité américaine maintenant, c'est demain jeudi que doit entrer en vigueur le décret migratoire révisé du président américain Donald Trump. Par crainte d'être arrêté et expulsé, de nombreux sans-papiers étaient partis pour le Canada après la publication le 27 janvier de la première version de ce décret migratoire. Et mardi, l'opposition canadienne a demandé au gouvernement canadien de dénoncer l'accord signé en 2004 avec les États-Unis sur les demandeurs d'asile. Ceci afin de protéger ceux qui risquent leur vie pour chercher refuge au Canada. Timothée Donogmaï a joint à Montréal Chika Kanyuri, éditeur et rédacteur en chef du magazine Transatlantique.
C'est l'accord du troisième pays sûr qui fait que les demandeurs d'asile qui viennent des États-Unis, s'ils passent à la frontière canadienne, sont directement refoulés sur les États-Unis. Pour dire que les États-Unis sont un pays démocratique et qui peut leur donner, le Canada ne peut pas leur donner plus que ça. Et que donc, ils considèrent que les États-Unis ont les moyens et la neutralité nécessaire pour analyser leur dossier. Or, actuellement, depuis le changement de régime aux États-Unis, l'opposition canadienne, notamment le nouveau parti démocratique qui est un peu plus à gauche, dit qu'il est grand temps que le Canada, qui officiellement affiche une autre politique, la politique qui dit que lui, il est pour l'immigration, surtout avec les musulmans aussi, quand on sait qu'il y a eu des pays musulmans dont on ne veut plus l'entrée aux États-Unis, des ressortissants, on dit que le Canada, donc, clairement, il est en conflit avec la politique américaine de l'immigration.
Et quelle est la conséquence aujourd'hui de cette politique, étant donné que nombre de sans-papiers vont au Canada?
La conséquence, c'est que les sans-papiers, et c'est pour ça d'ailleurs que les sans-papiers, en réalité, avant cet accord, les sans-papiers arrivaient à la douane canadienne. Clairement, ils demandaient l'asile politique, même en revenant des États-Unis. Mais depuis cet accord, ils ne passent plus par les douanes. Donc, ils cherchent à entrer au Canada illégalement. En disant qu'illégalement, il faut entrer sur le territoire sans qu'on ne soit vu pour ne pas être refoulé. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, c'est le boulot qu'ils sont en train de faire actuellement, des passeurs, quoi, pour essayer de les envoyer au Canada, mais pas par les douanes.
Et c'est une pratique aujourd'hui très dangereuse en cette saison hivernale où il y a de la neige partout.
Absolument, c'est dangereux. Il y a déjà eu des gens qui ont été amputés. Il y a aussi aujourd'hui un Ivoirien qui a l'hôpital dans un état assez sérieux. C'est une situation qui risque d'être assez dangereuse, d'autant plus qu'en réalité, comme vous le savez, le Canada n'a pas les moyens non plus de recevoir tous les immigrants illégaux qu'il y a aux États-Unis. Et que même ici, il y a un problème. Il y a un sondage il y a à peine 2 jours qui a dit que les gens n'aiment pas plus que ça, surtout l'arrivée. On sent qu'il y a aussi, même si elle est à peu près à 30%, il y a aussi dans la population canadienne une méfiance envers, par exemple, les musulmans.
Chikaka Nyori, éditeur et rédacteur en chef du magazine Transatlantique, joint à Montréal. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.